France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour. Imaginez un moment privilégié, une parenthèse inattendue, un tête-à-tête avec William Christie. Plus d'un auditeur de France Musique en rêverait, pensant le but inaccessible. Mais William Christie a pris l'initiative et va au-devant de son public, des mélomanes, par le biais d'un livre conçu sous la forme de dialogue entre l'artiste et Emmanuel Reich-Caserta, premier violon des Arts Florissants. Réalisés durant des tournées, ces entretiens permettent un regard de proximité sur William Christie et offrent un portrait sans fard d'un musicien passionné. Cultiver l'émotion, entretien de William Christie avec Emmanuel Reich-Caserta, chef du Sud.
Célestes ondes, après qu'inondit ces climats, après qu'inondit ces climats. Quittez vos demeures profondes, non, quittez vos demeures profondes, attendant des célestes ondes, et près d'inondir. Un torrent des célestes ondes, et plein d'inondis, inondis, ces climats. Et vous, chinois, pleurez, arrosez.
Nous écoutions un extrait de Platé de Jean-Philippe Rameau qui vient de paraître à la fois en CD et en DVD. C'est l'écho d'un spectacle qui était donné au Théâtre an der Wien à Vienne. Bonjour William Christie.
Bonjour Philippe.
Est-ce vous donc qui a été à l'initiative de ce livre et qui a pensé à cette forme, comme je l'ai annoncé, forme d'entretien qui permet vraiment de vous approcher au plus près? Et pourquoi, deuxième question, pourquoi avoir choisi Emmanuel Reich-Caserta, donc le premier violon de votre ensemble, pour mener ces entretiens?
À vrai dire, le format, c'est notre ami Emmanuel Reich qui a décidé, plus ou moins, n'est-ce pas, je dirais, l'architecture, qui allait prendre effectivement ces entretiens. Et je vous avoue que je suis très content, car ça a beaucoup d'allure. Un voyage aux États-Unis, un voyage en Espagne, un voyage à Venise, et puis, voilà, un temps consacré, non seulement aux promenades, n'est-ce pas, un peu de tourisme, mais un peu de gourmandise, gastronomie, et puis, voilà, les entretiens entre lui et moi. C'était facile, c'était très plaisant. Je crois que ça plaît beaucoup au lecteur.
William Christie, est-ce que le fait justement de vous adresser à quelqu'un qui vous est très proche musicalement, puisque vous le côtoyez régulièrement en tant que premier violon, est-ce que ça a changé pour vous les rapports? Est-ce que votre ton ou peut-être vos confidences étaient différentes que si c'était une autre personne, un journaliste par exemple, qui avait mené ces entretiens?
c'est même frappant la différence que ça peut avoir. L'idée de d'écrire quelque chose ou de parler de moi-même, n'est-ce pas, ça date. Et il était toujours question de trouver un journaliste, même les grands journalistes, n'est-ce pas, spécialisant en musique, n'est-ce pas, des gens qui avaient mon âge ou même il y a 10 ans, enfin des gens qui étaient considérablement plus âgés. Mais l'idée m'est arrivée et c'était mon idée, n'est-ce pas, de confier, dit simplement, enfin de demander à un jeune musicien qui travaille aux Enfleurissants. Qui avait, je dirais, enfin, la plume facile, et qui avait envie de participer dans cette aventure, c'était assez récent. Je crois que j'ai très bien choisi, car évidemment, c'est quelqu'un qui me connaît professionnellement, et ça, c'est un aspect important pour un lecteur. Comment se comporte William Christie depuis des années, n'est-ce pas, non seulement comme soliste, mais surtout comme directeur. Ça, c'est une partie essentielle de ma personnalité. Mais de pouvoir faire ça avec quelqu'un avec qui je partage énormément, en fait, de d'autres choses, enfin l'amour, enfin pour l'art, pour les voyages, un garçon aussi, fait qui est parfaitement à l'aise en 3, 4, 5 langues. Cet aspect cosmopolite, ben ça ajoute, ben, je dirais, un assaisonnement, c'est très, très intéressant.
Nous venons d'écouter un extrait d'une sonate de Jean-Baptiste Sénéier, extrait du premier livre de sonate à violon seul avec la basse continue, publié à Paris en 1710. William Christie, vous étiez au clavecin et au violon. Théotime Langlois de Swart, là également un autre violoniste extrêmement talentueux, qui extrait d'un disque appelé Génération, qui est apparu récemment chez Harmonia Mundi. Ce livre est organisé en 9 chapitres thématiques, qui permet de retracer le cours de votre vie, c'est exceptionnel. Je voudrais, si vous voulez bien, qu'on prenne un ou deux éléments. On va évidemment pas résumer le livre, ça n'aurait strictement aucun intérêt. Juste, parce que vous parlez quand même assez souvent de vos origines, de vos parents, du milieu dans lequel vous avez évolué, de vos brillantes études à Harvard et puis à Yale. Et vous évoquez très vite, très tôt, en fait, cette fascination pour la musique française. D'une part, avec Couperin, joué par une claveciniste qui jouait pourtant comme une bouchère, dites-vous. Et puis également la révélation d'Hippolyte et Arissi à travers l'enregistrement qu'en a réalisé Janet Baker en 1966. Qu'est-ce qui, tout de suite, dans la musique française, vous a accroché, William Christie? Est-ce que c'est lié à la langue? On y reviendra, parce que vous parlez beaucoup de la compréhension de la langue indispensable pour comprendre un style musical.
Oui, je crois que vous avez presque tout dit. Ces moments où le temps s'est arrêté, on était dans une sorte de transe. Oui, j'ai vécu ces moments d'épiphanie, souvent évidemment, mais ces moments m'ont marqué. Et peut-être les plus importants étaient ces moments musicaux où j'ai entendu pour la toute première fois un clavecin. J'écoute en disque évidemment, car nous sommes en train de parler de William Christie, le jeune Américain très provincial, n'est-ce pas? L'événement en question, l'écoute des leçons de ténèbres de François Couperin, ça a lieu dans les alentours de Buffalo, dans l'ouest de l'État de New York. C'est assez incongru. Mais en effet, ma grand-mère paternelle, alors là j'ignore comment et pourquoi, mais elle a trouvé dans un magasin de musique et de disques un enregistrement réalisé, je crois, en 51 ou 52 par Laurence Boulay et Nadine Sautereau, des leçons de ténèbres. Et c'est vrai que j'ai, en écoutant cela, j'ai éprouvé un moment d'intense plaisir, de curiosité, de satisfaction, beaucoup d'émotions mêlées, un contentement. Je me souviens, comme j'avais jamais vraiment vécu avant, une musique qui me parlait, une musique qui me touchait profondément. Et puis, un nombre d'années après, entre cette écoute dans ma chambre chez les parents, dans la Combrousse à l'ouest de New York, l'État, entre ça et un autre événement, il y avait évidemment collège, mes études, quelques années de piano, et là je parle surtout d'un moment où j'étais à Harvard, au collège, Harvard College, à Boston, à Cambridge plus précisément, dans l'état de Massachusetts, où j'ai trouvé dans à la bibliothèque de mon collège un enregistrement tout à fait récent, Anthony Lewis, Oiseau Lyre, Hippolyte et Arissi de Jean-Philippe Rameau, où le rôle de Phèdre était tenu par une sommité à l'époque, une grande mezzo, Janet Baker, que j'avais déjà connue parce que j'avais déjà cet engouement pour la voix, pour la musique vocale. Alors là, j'arrive au quatrième acte, et puis elle commence cet extraordinaire monologue en apprenant, n'est-ce pas, la mort d'Hippolyte. Et là aussi, même chose, « Time stood still ». C'est-à-dire, il y avait, j'étais dans une sorte j'ai vécu un moment de transe, peut-être. Je n'exagère pas. Je me souviens que j'ai recruté deux, trois fois. Je suis allé voir mes amis collégiens en disant que j'avais entendu quelque chose qui était absolument surprenant. Et on a écouté Hippolyte Arissi. mais entièrement. Curieusement, bon, c'était vraiment elle, n'est-ce pas, qui a provoqué cette extraordinaire révélation, en quelque sorte. Petite anecdote, j'ai envoyé un mot via Wazerly à Madame Janet Baker en disant, Madame, l'écoute de votre interprétation du rôle de Phèdre m'a changé la vie. Et en effet, moi qui ai hésité à me prononcer, me déclarer musicien, maintenant je sais que ce serait ce que je veux faire dans la vie. Hélas, il n'y avait pas de réponse. Mais des années après, beaucoup d'années après, je me trouve à Glyndebourne comme chef d'orchestre. Et là, chez les Christus, George and Mary, un soir, c'était pour un dîner, je rencontre Janet Baker. Et j'ai dit, Madame, il y a bien des années, je vous ai envoyé un mot. Elle m'a dit, écoutez, je me suis préparé avec des mots pour cette rencontre, hein, parce que Mary m'a dit que je serais présent, vous serez présent. Et en effet, je me souviens très bien. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que, excusez-moi, pardonnez-moi, oui, c'était effectivement, je n'ai pas répondu. Mais on est devenus amis. Et j'ai vu Janet assez souvent lors de mes déplacements à Glyndebourne. Et voilà, donc il y a une sorte de fin heureuse à ce moment, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà, je parle de deux, trois moments. Il y avait d'autres. Mais ce moment était décisif.
De Marc-Antoine Charpentier, un extrait de Médée, le deuxième enregistrement que vous avez réalisé, un extrait du deuxième acte avec Lauren Hunt dans le rôle-titre. Vous venez de nous rappeler vos souvenirs relatifs à la musique française, William Christie, et on sait donc tout ce que vous avez fait pour ce répertoire. Dans le livre, vous insistez justement sur le parallèle entre une musique et la langue nationale, et puis également votre amour inconditionnel de la voix. On a l'impression que toute votre carrière, en fait, a été guidée par cet amour de la voix. À un moment, vous dites d'ailleurs que vous n'aimiez pas la façon dont les baroqueux du Nord jouaient du violon, parce que vous trouvez justement que c'était loin de la voix. Pour vous, en fait, tout doit, si j'ai bien compris, se rapprocher de l'expression vocale.
Ben, vous avez tout dit. C'est vrai que l'amour que je porte pour les langues est intense. Écoutez, je suis tout simplement, je redis ce qui était dit il y a 3 siècles, ou ce qui est écrit depuis, par les théoristes, par les musiciens, c'est la langue et un art vocal, n'est-ce pas, qui est à la base de toute musique. Et on ne peut pas exagérer ce propos trop. Si on n'a pas une idée de la musicalité de la langue elle-même, on ne peut pas comprendre, n'est-ce pas, la musique française, oui, et depuis des siècles. La couleur de la langue, la syntaxe, l'organisation syllabique, la rhétorique, n'est-ce pas, qui est appropriée justement, n'est-ce pas, qui fait partie effectivement, en tout cas, de la mentalité musicale des anciens. Tout ça, c'est très important. Hier soir, ce n'est pas du tout une chose déloyale à vous dire, mais j'ai entendu une musique française et je me suis dit, voilà, le problème, c'est la saveur de la langue elle-même est absente, justement. Et en effet, la syntaxe. Enfin, et tous qui se trouvent autour d'une langue, en parlant de la musique, la langue française, cette élégance, n'est-ce pas, fait qui est dans la, tout simplement, enfin, n'est-ce pas, le, un art, enfin, n'est-ce pas, fait de la déclamation publique, enfin, n'est-ce pas, c'était pas là. Oui, c'est important. C'est très important. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que des Français et des chanteurs qui peuvent chanter Rameau ou Mondonville ou Lully? Pas du tout. Cette année, il y a beaucoup d'étrangers qui s'expriment très bien dans la langue française. Mais il va falloir, n'est-ce pas, la reconnaissance, l'importance.
Michel Lambert, nous écoutions « Tout l'univers obéit à l'amour » par les Arts Florissants et vous-même, William Christie, extrait d'un ensemble de 3 disques intitulés « Air sérieux et à boire ». Une dernière question, William Christie, vous avez parlé justement du parallèle entre la musique et la langue, est également évoqué à travers ce livre « Cultiver l'émotion », le parallèle également avec les autres arts. On sait que vous avez étudié l'histoire de l'art, vous évoquez d'ailleurs à travers ces entretiens avec Emmanuel Reich, le parallèle entre Tintoret et Véronèse, quand vous êtes à Venise, entre le fini de l'un, enfin du second, et plutôt le mouvement, la puissance du premier, du Tintoret. Est-ce que là aussi, quand vous préparez une œuvre, le fait de comprendre, de connaître la musique de la langue, mais de connaître également l'environnement intellectuel, culturel, artistique, est important?
Ben, je crois que vous avez... effectivement, encore une fois, n'est-ce pas, donner la réponse. Vous savez, depuis un nombre d'années, je suis artiste en résidence à la Juilliard School de New York. Et je me souviens très bien ce qu'il m'a dit à Arya Goslemidian, qui était le doyen des étudiants dans cette école très prestigieuse à New York. Il m'a dit, vous avez une mission. les arts florissants peuvent servir de... Et il a utilisé un mot qui est un tout petit peu, une expression qui est un tout petit peu péjoratif. You are the finishing school. Alors, finishing school, enfin, dans le vocabulaire anglo-américain, c'est une école, n'est-ce pas, qui donnait les leçons, en fait, de bon comportement aux jeunes filles des bonnes familles. C'est-à-dire comment manipuler la fourchette, comment, n'est-ce pas, démarrer une conversation avec un inconnu. Enfin, bref, n'est-ce pas. Comment avoir une élégance et une expressivité et une importance, n'est-ce pas. Voilà. Et voilà. Alors je me dis, mais je comprends un tout petit peu ce que tu veux dire, mais c'est pas très, très... pas très gentil. Non, il m'a dit, c'est très simple. Toi, maintenant, et les arts florissants, vous représentez quelque chose, n'est-ce pas, fait qui est fort rare chez les jeunes gens aux États-Unis. C'est-à-dire, n'est-ce pas, vous avez assimilé une culture, enfin, n'est-ce pas, qui englobe la peinture, peut-être, enfin, du XVIIe siècle, ou une littérature, n'est-ce pas, enfin, et ce sont les choses, il me dit, il faut le dire, réellement, qui sont très manquantes, n'est-ce pas, chez un jeune violoniste à la Juilliard School, ou même un jeune chanteur, n'est-ce pas. C'est-à-dire de mettre une musique dans un contexte beaucoup plus important, justement, n'est-ce pas, à une culture italienne, fin du grand siècle, ou tout simplement de savoir ce qui entourait la musique en France, entre... Louis XIV et son arrière-petit-fils, n'est-ce pas, enfin, qui termine, enfin, le siècle. Et il a parfaitement raison. Car, ou combien de fois on travaille une cantate, par exemple, d'un compositeur français sur un thème mythologique, Diane et Actéon, ou Didon et Énée. Et on s'aperçoit avec... Oh, presque l'horreur, n'est-ce pas, fait que le jeune Américain, fait qui joue ou qui chante, n'a pas la moindre idée de qui était ou qui est Actéon ou Diane. Et non seulement dans un contexte gréco-romain, mais la Bible. Nous, malgré le fait que peut-être la chrétienté est moins, disons, moins évidente et moins présente sur le plan culturel, n'est-ce pas, la plupart de mes chanteurs et mes instrumentistes ont quelques notions, n'est-ce pas, du Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Mais c'est surprenant, fait que ce n'est pas le cas aux États-Unis. Est-ce que ça aide la musique? Évidemment. Évidemment.
Merci William Christie. Je rappelle le titre de votre livre « Cultiver l'émotion des entretiens avec Emmanuel Reich-Caserta » qui viennent de paraître chez Actes Sud. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Patrick Muller, attaché de production Annick Aumier. La semaine prochaine, je serai en compagnie de Christophe Rizou et nous ferons le tour du monde en 130 opéras. D'ici là, excellente journée et excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.